Mercredi 5 août 2020, on est accueilli par Jean-Luc Thomas. Jean-Luc Thomas accueille à la fois Radio Campus Bordeaux et Alternante FM à Kerlaveo, c'est sur la commune de Vieux-Marché. Vieux-Marché, c'est dans les Côtes d'Armor, grosso modo, on va dire à mi-chemin entre Lannion et Guingamp. Cette maison, Jean-Luc Thomas, c'est la vôtre. Elle a un nom, Kerlaveo, il paraît que c'est Kerlaveo, ça veut dire la ferme de l'audacieux.
Alors c'est ce que m'avait communiqué Fanche Perru, qui est un érudit de la langue bretonne ici dans le Trégor. Et en 2003, quand je me suis installé ici, j'ai toujours senti que c'était important de savoir d'où on venait et donc d'essayer de remonter un petit peu tous ces noms, notamment tous ces noms bretons. Donc j'avais contacté Fanche et après quelques recherches, voilà, c'était le résultat que m'avait donné Fanche, Kerlaveo, la ferme de l'audacieux.
Sur l'histoire de cette ferme, je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait eu un concert dans la grange. C'était Mamar Cassé qui était invité par vous. Et au concert de Mamar Cassé, donc le groupe du Niger, de Yacouba Moumouni et de Boubacar Souleymane, entre autres, parmi le public, il y avait une dame qui avait habité dans votre maison et qui vous a révélé des choses sur cette maison. Vous vous rappelez de ce moment?
Bien sûr. En fait, il y a eu... C'est assez marrant, il y a eu trois événements ici. Donc il y a eu ce concert de Mamar Cassé. Quelques années avant, avec Gabi Cardoncuff, on avait organisé un concert solo de Patrick Mollard, de Pibroch, sur la pelouse ici. Et donc le couple était déjà venu, donc Roger et Sabine. Et ce lieu était en fait la première ferme bio du Trégor, qui faisait du fromage de chèvre vraiment dans les années 70. On était vraiment chez les hippies là. Et à l'époque où les musiques traditionnelles, c'est assez curieux de parler comme ça aujourd'hui, hein, mais à l'époque, c'était quand même des choses très clandestines finalement. Les musiques populaires, elles étaient soit rurales pour le Kanadiscan, le Binou Bombard, le Trojan-Gaul, mais même l'accordéon diatonique n'était pas aussi vulgarisé et populaire qu'on peut le croire. Et donc les premiers cours et les premiers stages d'accordéon diatonique qui ont lieu dans le Trégor ont eu lieu dans cette maison, dans ce lieu.
Musique traditionnelle, vous dites qu'à l'époque, ces musiques-là étaient clandestines. C'est un peu hein, le sentiment qu'on pourrait avoir maintenant si on se contente, par exemple, d'écouter la radio dans sa voiture. Même quand on sillonne la Bretagne et le Trégor, on entend très peu de ces musiques-là, musique traditionnelle, musique aux racines traditionnelles. Alors, heureusement, quand on est curieux... On peut écouter ces musiques de façon vivante, mais ce sont quand même des musiques qui, on va dire pour le grand public, peuvent rester véritablement clandestines encore, ou alors totalement silencieuses.
Ce sont des musiques qui sont extrêmement liées à des contextes sociaux, donc qui sont en permanence en train de bouger. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé à faire de la musique, effectivement, les personnes ressources, il n'y avait pas de cours de flûte déjà. Donc moi j'allais voir les paysans qui chantaient. Et effectivement, la musique sur disque ne m'intéressait pas. Parce que ce qui m'intéressait, c'était voir la musique se faire, quoi. Alors je sais qu'il y a un musicien que vous connaissez bien, là, qui s'appelle Bernard Luba, qui parle de ce concept entre musique à vivre et musique à vendre. Ou musique, enfin, je sais pas, les musiques en boîte. Effectivement, les radios diffusent des musiques à vendre, quoi, des musiques en boîte. Et alors, moi, j'aime bien l'idée aussi, très souvent, de la musique incarnée. J'appelle ça la musique incarnée. On va à un endroit et pourquoi il y a de la musique? Il y a de la musique tout simplement parce qu'il y a un musicien. Quelle que soit la musique qu'il est en train de fabriquer, il est là. Hier, on était à Rostrelin. À un moment, je me suis arrêté devant la porte d'un luthier. Il y avait un balafoniste qui jouait. Qu'est-ce que c'est beau de voir un balafoniste jouer du balafon, enfin voilà, ou un flûtiste jouer de la flûte. Enfin, donc effectivement, il y a une frange de la population qui se contente de manger la chair à pâté qu'on lui donne, et puis il y a une autre frange qui décide un petit peu de ce qu'elle va manger, de ce qu'elle va écouter, et puis s'il faut aller dans des endroits un peu curieux pour avoir accès à ces musiques-là, ben on va y aller. Et on sait qu'on n'est pas tout seul. Ça, c'est ce qui a été la force de la musique en Bretagne. Je pense que cette force, elle est toujours là. On traverse un moment extrêmement bizarre, justement, par rapport aussi à ça. On nous interdit pas d'écouter des musiques en boîte à la radio, mais par contre, on nous empêche quand même sérieusement d'aller nous réunir là où il y a des musiques qui nous plaisent et qu'on ne verra qu'à l'endroit où ça se passe. Donc, il va falloir être très résistant, très résilient, ouais.
Quoi la skin à les aurait à ce bédassine d'un armée à ce bédassine d'un gual gomban doué de rey d'air gombat va à un guerre d'osut qu'elle est yoma. Un autre les aurait à la varie. Di bajik bihan an de awi Di bajik bihan an de awi Di pti me prima in korn e gwen La ka ur bridar an ten i ben Ang di bralo red war i gein Ago hin i ro an a kipad Ma he form de zanteuse an a winner Ma he form de zanteuse an a winner Un autre les ouvre à la varie Er zanteuse an a panarie Er zanteuse an a panarie Barz en tri war komba di rombit A goz ri war am eus gonia Dre ho kras an teus an a wina Roi dir az ar honi de nantek bat Me a vo kirun den drinda Me a vo kirun den drinda A mi roio dar a huriz kwa A gerei en dro do hol dua A gerei en dro do hol dua Thank you. un autre quoi d'un skin à la varée, qui bagique bien la gandesse. Dis bagique bien la gandesse. Mais ouais, l'automne de Nazan, a gué war gagne n'incon et gwen. A gué war gagne n'incon et gwen. Un autre les ombres à la varas, de guadeskin valmin clevas. De guadeskin valmin clevas. Marron mais un as un drasur, mais n'a donc que d'as un drinature. Mais à de la rare wandin Manatus que l'on vient de mesan, mais à royo d'il han vi ou diva, mais à royo d'il han vi ou diva. De gombatineuse et à hinbe, notre les obrés nous gonnéen, notre les obrés nous gonnéen. En en eau d'un doux et les ombres, t'es à l'os qu'au gagne m'a bué, t'es à l'os qu'au gagne m'a bué.
La relation, elle peut être très simple. Hein. Soit je considère ce qu'on appelle le public comme un consommateur. Donc tu payes, tu as. Voilà, c'est ça, la consommation, c'est ça. Je vais à un endroit, je veux telle chose, je paye pour ça, et voilà. Donc il y a plein de festivals, notamment, on va pas les citer, mais chacun s'y reconnaîtra. Et puis, il y a un moment, il y a des gens qui décident de stimuler la curiosité, de stimuler l'imagination, et ça tombe bien, parce que finalement, il y a des gens qui aiment bien qu'on stimule leur curiosité, qu'on stimule leur imagination. Moi, le premier, en tant que public, par exemple, Rostrenin est tout près d'un petit village qui s'appelle Glomel. Et moi, pendant des années, le plus grand festival qui m'intéressait en Bretagne, c'était les rencontres internationales de la clarinette populaire à Glomel, où, quand je pouvais, j'achetais mon forfait de 3 jours, sans avoir la moindre idée de ce que j'allais écouter. Et je savais que ce serait bien. Je faisais une totale confiance aux personnes chargées de la programmation, pour surtout me faire écouter des choses que je connaissais pas. Parce que la question, justement, de la consommation, c'est j'aime pas. C'est tout de suite, quoi. C'est immédiat. Ah, c'est trop sucré, c'est trop épicé, je sais pas. Et alors que là, quand on parle un petit peu de culture ou d'art, la question est plutôt de faire penser. Qu'est-ce que ça va provoquer chez moi, de bien ou de moins bien? Et du coup, qu'est-ce que ça va alimenter comme réflexion qui va pouvoir alimenter un cheminement qu'on fait tous dans notre vie et qui fait que si un jour je suis capable de passer de Madame Bertrand à John Coltrane, c'est parce que j'ai eu aussi des gens qui m'ont aidé hein, sur ce chemin, parce qu'on on passe pas comme ça du jour au lendemain à Madame Bertrand à Coltrane, quoi. Voilà, donc c'est comment ce chemin se fait. Donc c'est grâce à des gens comme les Musiques Têtues, c'est grâce à des gens comme les gens du Tout Couleur, comme les Fifres de Garonne, comme tous ces gens-là, Patrick Duval, qui à un moment sont là pour se dire, voilà, vous savez que la curiosité va stimuler l'imagination. Quand on a de l'imagination, eh ben quand on a un problème, il n'y a pas une réponse. Quand on a un problème, il y a 10 réponses. Et après, on peut choisir laquelle est la meilleure par rapport au moment dans lequel il faut qu'on trouve cette réponse donnée. Et donc, donner l'opportunité aux gens d'imaginer, donner l'opportunité aux gens de penser, c'est la plus grande forme de respect, je pense, qu'on peut avoir d'un public, ce qu'on appelle un public. Donner aux gens à consommer ce qu'ils veulent consommer, c'est vraiment c'est un mépris le plus abject, en fait.
Jean-Luc Thomas, hier vous étiez à Rostronin, comme on le disait tout à l'heure, avec Gabi Cardon-Cuff. Vous connaissez avec Gabi depuis pratiquement 20 ans. Et alors vous disiez, alors avec beaucoup d'humour, que vous avez fait énormément de réunions ensemble, mais que vous aviez jamais joué ensemble.
Bon, en fait, ça a commencé un peu comme ça aussi. C'est quand je connais Gabi depuis très très longtemps, mais on s'est rapprochés à l'occasion des assemblées générales liées au conflit des intermittents du spectacle de 2003. Il y en a eu beaucoup des AG. Et puis c'était un peu, on est contre, on est contre, on est contre. Et moi, j'aime pas ça, cette idée d'être contre quelque chose, ça me... Parce que du coup, quand on est contre quelque chose, on a toujours besoin d'avoir l'objet contre lequel on lutte. Donc moi, je préfère être pour quelque chose. Voilà, on avance et on peut être contre tout ce qu'on veut, quoi. Et donc, là, on était contre, contre, contre beaucoup de choses. Et à un moment, je dis à Gabi, mais il y a un truc qui me convient pas. Et puis Gabi me dit, écoute, Jean-Luc, tu travailles avec des musiciens d'Afrique de l'Ouest, du Brésil, etc. Moi, je travaille avec des musiciens orientaux, jordaniens, des Balkans. Il va falloir se poser la question des visas bientôt pour ces artistes avec qui on travaille et qu'on veut continuer à faire venir en Bretagne. Et au départ, donc, on a monté la compagnie Rondo Rustica pour ça. Et puis, c'est devenu un outil de production, de création de spectacles, et puis un label, etc. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de réunions. Et puis, c'est beaucoup de choses dans le mental. On est dans l'analytique, dans des choses qui sont finalement très laborieuses chez les artistes, se mettre dans la matière, quoi. Qui fait qu'une fois qu'on sortait de réunions de 2, 3 heures, on n'avait peut-être pas forcément, on n'avait plus l'énergie peut-être pour parler d'artistique et de musique. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Et puis Gabi avançait sur ses créations musicales, moi sur les miennes. Et en même temps, chacun gardait aussi son intégrité. Donc, ce qui était pas mal. Peut-être que ça aurait amené de la confusion si on avait en plus partagé des expériences musicales, quoi. Voilà. Donc là, par un concours de circonstances, on s'est retrouvé à jouer ensemble hier. Donc, c'était bien parce qu'en fait, on se connaît super bien. C'était un peu du sans-filet parce qu'on s'est fait deux petites séquences de répétition pour trouver le terrain commun, sachant qu'on est vraiment, même si on se connaît bien, on est sur des esthétiques et des façons de penser qui sont quand même bien différentes. C'est pour ça qu'on est associés. C'est pour ça que c'est la complémentarité qui est super intéressante. Voilà. Et donc, cette première, elle a eu lieu. C'était très, moi, j'ai eu vachement de plaisir à jouer, hein. Hier, c'était vraiment. Alors, est-ce que le confinement fait aussi que j'étais en manque de ce genre de rencontre avec le public? Mais j'étais très très heureux de jouer hier parce qu'on avait fait une musique, ouais, assez improbable, je pense, au plus.
On est toujours avec Jean-Luc Thomas. On est chez Jean-Luc Thomas à Carlavéo. C'est une émission enregistrée pour Alternante FM et Radio Campus Bordeaux. Carlavéo, c'est le nom du lieu-dit, mais c'est également depuis quelque temps à la fois le nom d'un disque et puis le nom d'un groupe. Un disque qui a été enregistré il y a quelque temps déjà maintenant, qui a été enregistré en grande partie au Brésil. Et Carlavéo, c'est le nom d'un groupe, c'est un nom qui fait partie, d'une certaine manière, du vocabulaire brésilien, musical brésilien.
En fait, Carlavéo, c'est aussi, et c'est ce qui fait tout le lien, c'est le nom d'un morceau, d'une composition de Vitor Lopes, le joueur d'harmonica de São Paulo. Alors Vitor, c'est mon vieil ami, c'est un frère, quasiment pour moi. En fait, il est venu ici, j'étais pas encore propriétaire de cette maison, mais j'avais signé chez le notaire. Et Vitor était on était en tournée à ce moment-là, en Bretagne et en France. Et donc j'ai convoqué Vitor, Marcelo Costa et Guga Meret, donc ils faisaient partie du trio Viralata, à venir voir l'endroit dont je n'avais pas encore les clés. Et c'était le début d'une longue histoire avec donc ces musiciens de São Paulo, le trio Viralata, dont Vitor Lopes fait partie. Et donc ils sont venus de nombreuses fois entre 2003 et 2007 chez moi. Et puis bon, après voilà, chacun fait ses histoires. Et puis à partir de 2009, c'est moi qui ai commencé à aller régulièrement à São Paulo d'abord. Et systématiquement, j'étais logé chez Vitor, dans le quartier de Butantã à São Paulo. Et puis une année, Vitor me dit, regarde, j'ai composé un morceau, voilà, c'est pour toi, ça s'appelle Carlavéo. Il me fait jouer ce morceau, c'est super beau, tout ça. Et puis en 2015, je pars faire une longue résidence avec l'association Lotridée de Rennes, entre Pernambuco et São Paulo. Et j'embarque avec moi Françoise de Georges et une équipe de France Musique, de l'émission Couleurs du Monde. Vitor m'envoie un petit message en me disant, Jean-Luc, si tu veux, là, c'est peut-être l'occasion de monter un groupe, puisque tu seras là, avec Carlinhos Antunes, Gabriel Levy, Pedro Huito, Toninho Carrasquera. Qu'est-ce que tu penses? Alors, je dis, c'est une super idée, c'est des super musiciens. Je serais très fier, très heureux, très honoré de jouer avec ces musiciens-là. Et puis, Vitor me dit, bon, on n'aura pas beaucoup de temps pour travailler, donc est-ce qu'on peut s'envoyer des morceaux par Internet? Comme ça, chacun les travaille de son côté. Je dis, pas de souci. Donc, moi, j'envoie deux morceaux. Je reçois une autre partie du répertoire, je travaille ça de mon côté. Et j'arrive à São Paulo, et là, il y a une superbe affiche du phare d'Aigues-Mules, avec, donc, très bretonne, avec écrit Jean-Luc Thomas Sextet. Donc ça, je n'étais pas au courant. Donc je dis à Vitor, t'es gentil, mon ami, mais si j'avais eu envie de créer un sextet à mon nom, peut-être je l'aurais fait, quoi. Et là, je suis très honoré, mais il y a un truc qui me dérange un peu quand même. Mais bon, le coup était parti, il fallait y aller. Donc on a fait les concerts. Les concerts ont été très 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 bien accueillis par le public à São Paulo. Du coup, on a réinvesti nos cachets dans du studio tout de suite. Tous les musiciens ont dit, tant que Jean-Luc est là, il faut absolument qu'on enregistre. On verra ce qu'on en fera, mais il faut enregistrer. Donc on est parti en studio et on a enregistré 5 morceaux, je crois. Parce que sur ce concert, il y avait une partie de morceaux originaux et quelques morceaux, parce qu'on était un peu dans l'urgence, qui étaient un petit peu des morceaux traditionnels, des choros de Pixinguilla ou des choses comme ça. Donc on a enregistré ces morceaux en 2015, et puis 2016, silence radio en gros, et puis fin 2016, Vitor me dit, écoute, l'équipe ici a envie de terminer l'album, mais il manque 3 morceaux. Est-ce qu'on peut imaginer que nous on enregistre à São Paulo, on t'envoie les fichiers, tu fais ça de chez toi, exactement dans la pièce où on est là. Je dis, écoute, essayons. Donc je suis pas un preneur de son, je suis pas un ingénieur du son, mais voilà, j'ai fait mes prises de son ici, j'ai ramené mes flûtes, mes fichiers flûtes par internet à São Paulo, et ça marchait. Donc le disque a été enregistré, mixé, et il est sorti au Brésil d'abord en septembre 2018. Et à ce moment-là aussi, Rondo Rustica devait éditer l'album de Fawaz Baker, et pour des histoires internes, on a décalé d'un an la sortie de l'album de Fawaz. Du coup, notre distributeur nous demandait de quand même d'alimenter, pour moi, qu'on ait un petit label, mais un disque par an, voilà, c'est ce que demande un petit peu le distributeur pour continuer à être présent auprès des vendeurs et tout ça. Donc Gabi dit, mais voilà, s'il y a un disque qui est prêt, c'est quand même dommage qu'il ne soit qu'au Brésil. Donc on a fait une édition Irustica, donc avec la charte graphique Irustica, donc les deux disques, les deux pochettes sont différentes. Ah oui, ce que j'ai pas fini de dire, excusez-moi, on finit le studio en 2015 et on va tous manger dans un super restaurant à la brésilienne, à São Paulo. Et là, moi, je dis merci à tout le monde. J'ai dit, ben, merci beaucoup pour la présence, pour la musique. J'ai juste un souci, c'est que le nom du groupe, là, Jean-Luc Thomas Sextet, ça me dérange un peu quand même. Et Carlino Santunes me dit, oui, je comprends, tout le monde a compris ça, il n'y a pas de souci. Mais nous, on trouve qu'il y a un nom qui est super dans notre programme, c'est Carl Aveo. Et donc, il faut qu'on prenne ce nom pour le groupe. Donc, en mars 2015, est né vraiment, à l'issue de cette séance de studio, la formation Carl Aveo. Donc, qui a fait des concerts en 2018, qui a fait des concerts en 2019. Donc moi, je pousse évidemment, comme on est au Brésil et que la situation des musiciens, c'est quand même pas simple, donc je les pousse vraiment à faire des concerts sans moi. Ils ont un potentiel musical tellement fort qu'il n'y a aucun souci. Mais ils pensent que c'est toujours bien d'avoir un invité. Donc soit c'est Jean-Luc Thomas, et maintenant j'ai un super remplaçant de luxe, de grand luxe. Il y a Carlos Malta, qui... je devais venir, je ne sais plus, une année en janvier à São Paulo, puis finalement ça s'est annulé, parce que j'avais Zingaro, je pense qu'avec Zingaro je ne pouvais plus me libérer. Et c'était trop compliqué pour les copains de Carl Aveo de bouger la date. Du coup j'ai demandé à Carlos Malta s'il voulait me remplacer. Et Carlos a dit oui, avec un grand plaisir. Donc voilà, donc Carl Aveo existe et au Brésil, et on espère l'année prochaine en France.
Pour remettre certains des auditeurs qui seraient perdus sur les rails de notre conversation, vous parlez de Carlos Malta. Donc Carlos Malta, joueur de pifre, saxophoniste, qui est une des grandes figures hein, de la musique brésilienne, qui a longtemps joué avec Hermeto Pascoal. Et quand vous parlez de Zingaro, vous faites référence à cette expérience que vous avez eue, qui s'est terminée il y a pas très longtemps. C'est-à-dire deux ans et demi de travail, de composition, de musique sur le dernier spectacle de Zingaro. Donc ce théâtre équestre, le spectacle s'appelait Ex Anima, c'est ça ?
Tout à fait. Donc pendant deux ans et demi, oui, j'étais très 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 occupé avec cette aventure. Donc j'ai continué à faire des petites choses à côté, mais parce que j'en avais besoin. Mais ça m'a beaucoup pris, une expérience passionnante avec cet univers des chevaux et oui, inoubliable aventure.
Pour revenir à Carl Aveo, au disque, moi j'ai eu une expérience véritablement étrange à l'écoute de ce disque. J'ai trouvé que c'était une musique tranquille, douce, mais faite par un groupe avec une énorme énergie, à la fois il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de force, on sent véritablement cette énergie, et pourtant, aux premières écoutes, on a vraiment le sentiment d'écouter une musique apaisée, une musique douce.
Ah, bah là, je sais pas quoi répondre, parce qu'il y a énormément de... Une bonne partie de cette musique est quand même bien, bien branchée sur la connexion que j'ai avec Vitor. Et on a une relation qui est un peu comme celle que j'ai avec Yacouba Mouni, finalement. C'est une relation qui est très tendre, mais qui est très virile en même temps. On est deux garçons, là, et on se fait des petites blagues et tout ça. Et il y a ce côté un peu, là, il faut qu'on transpire ensemble aussi, qui est très viril. Et en même temps, il y a un vrai amour. Voilà, enfin, moi, quand Vitor m'envoie un petit message, il me demande tout de suite des nouvelles de la famille. Enfin, voilà, moi, quand je vais là-bas, je passe beaucoup de temps avec la compagne de Vitor et son fils, etc. Donc, il y a ça. Et puis, en même temps, voilà, on est au Brésil. Et puis, dans ce rapport énergétique par rapport à l'Occident, on est souvent sur des choses qui sont beaucoup plus retenues, beaucoup plus subtiles aussi, très souvent. Quand ils veulent de la grosse force, ils ont des batucadas. Enfin, voilà. Et là, c'est la fin du monde, c'est absolument époustouflant. Là, on a un batteur, par exemple, on a une section rythmique dans Carl Aveo qui est capable d'être extrêmement fine et puis d'envoyer beaucoup d'énergie aussi à un moment. Et il y a une vraie dynamique dans les concerts, par contre. Parce que c'est vrai que les disques, les studios, on est un peu loin les uns des autres. Même si ce disque a été enregistré live, hein, on était tous ensemble, mais on n'était pas... On avait déjà la distanciation physique dans le studio, donc forcément on joue pas pareil, alors que sur scène on est plus proche, et du coup les nuances se font immédiatement, piano, forte, blablabla. Voilà, mais il y a une vraie énergie, il y a une vraie dynamique, et alors la douceur, c'est peut-être parce qu'on a enregistré tous ensemble, il y avait une grande écoute de tous, Donc du coup, tout le monde est un peu sur la retenue. Puis vraiment, on sait que, notamment, il y a le morceau de Gabriel Levy, Bayan do Cinco, qui est un morceau qui est très énergique. Et je pense que ça se ressent quand même dans cet album, quoi. Pour pouvoir naviguer sur l'échelle du piano et du forte, c'est énormément de maîtrise aussi. Énormément de travail, d'expérience et puis de maîtrise. Pour un moment, dire des choses, c'est comme le vocabulaire, faire dire des choses simples, mais avec force.
Thank you.
Il y a énormément d'instruments sur ce disque et il y a beaucoup de solistes. Vous êtes tous des solistes à un moment ou à un autre. Et il y a toutes ces nuances aussi, tout ce qu'on entend, et même dans un morceau qui est joué pas forcément à l'unisson, mais où vous jouez ensemble, on a l'enregistrement est tellement bien fait que on a vraiment la possibilité d'entendre absolument tout le monde et d'entendre des solistes jouer ensemble.
C'est surtout lié au fait que tous ces musiciens, sauf moi, ont un redoutable bagage musical. La différence, alors, ce que Caraveo, c'est vraiment un groupe qui réunit les paradoxes, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement rural, dans ma campagne, au bout. Eux, ils sont extrêmement urbains. San Paolo, c'est la taille des Côtes d'Armor, quoi. C'est la taille du département, quoi. Avec des buildings de je sais pas combien d'étages. Enfin, c'est vraiment la mégapole, quoi. Donc, voilà, et on communique quand même là-dessus. Au Brésil, les musiciens qui ne font pas de la batucada ou qui ne font pas du forró, il y a un moment, ils passent forcément par une école de musique, par un vrai travail sérieux sur la théorie musicale, l'harmonie, le contrepoint, etc. Moi, je viens de l'oralité. Je viens vraiment de la musique populaire telle qu'elle est enseignée ici, par le bouche à oreille. Moi, j'ai fait un travail sur l'unisson avec mes différentes formations avec lesquelles j'ai travaillé. Mais c'est beaucoup de répétitions en Occident. Là, on n'avait pas beaucoup de répétitions. Donc, c'est la capacité à analyser ce qui se passe et à trouver sa place pour que son instrument sonne dans un contexte bien défini. Surtout que vraiment, l'optique de l'enregistrement était de prendre le côté live, vivant, le mixage. Ça a été pareil, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de très naturel, quoi, très brut. Et du coup, ce sont les musiciens qui mixent la musique et pas l'ingénieur du son.
Caraveo, Jean-Luc Thomas, c'est un album de musique, à la fois musique du Brésil, musique d'Amérique latine. On a à l'écoute le sentiment d'écouter une musique savante, à la fois une musique populaire, une musique vraiment aux racines traditionnelles, mais il y a cette touche, cette impression d'écouter une musique savante, une musique vraiment proche de ce que certains appellent la musique classique.
Tous ces musiciens ont une solide formation musicale. Le choro d'où vient Vitor Lopez, incarne vraiment ce que vous dites là. C'est-à-dire que c'est une musique qui est extrêmement construite, extrêmement pensée, et en même temps qui laisse énormément de liberté aux gens qui ont maîtrisé le code. Parce qu'il y a une codification qui est extrêmement complexe, comme le jazz. Hein. Mais à partir du moment où on a maîtrisé le code, on peut s'en affranchir, on peut s'en écrire des règles. C'est juste de la télépathie, on sait ce qui va se passer. Après, dans Caraveo, il y a Gabriel Lévy, qui est un grand, grand arrangeur, donc qui joue du piano et de l'accordéon. C'est un grand compositeur, c'est un grand arrangeur. Donc lui aussi, c'est pareil, il est habitué à voir les gens se positionner. Donc il y a un moment, quand on a fait les arrangements de Caraveo, je pense que Gabriel avait une oreille et en une phrase, il pouvait mettre une couleur d'un morceau en disant, voilà, peut-être qu'il faut juste le penser comme ça. Et c'était tellement clair pour tout le monde que ça fonctionnait ainsi. Et puis Carlinhos Antunes, également compositeur, chef d'orchestre. Carlinhos, il a monté des projets magnifiques, surtout en ce moment dans ce Brésil qui souffre, mais il a monté un orchestre de réfugiés déjà il y a 4-5 ans, et cet orchestre, il écrit toute la musique de l'orchestre. Donc il va mélanger des Guinéens, des Syriens, des Mongols. Et donc il est effectivement très souple aussi dans le jeu collectif, très souple dans... Donc l'idée, c'est quand même, effectivement, il y a une grande culture musicale, il y a une grande connaissance de la théorie de la musique, mais en même temps, il y a une volonté de faire de la musique populaire, pour le peuple, par le peuple. Donc d'une manière la plus simple qui soit, la plus généreuse qui soit. C'est un peu quand même l'idée, mais en même temps, pas de mâcher les choses, de prendre le temps, comme un repas, préparer, trouver les bons ingrédients, couper comme il faut avec le bon couteau, la bonne cuisson, voilà, donc tout ça, c'est de la connaissance.
Vous parlez de Gabriel Lévy, qui est à la fois pianiste et puis il joue des deux pianos, en fait. Oui. Le piano et puis ce qu'on appelle également le piano du pauvre, c'est-à-dire de l'accordéon. Gabriel Lévy, il y a un morceau là dans l'album Caraveo que j'adore. Je crois que c'est une composition de lui qui s'appelle Modinha, pardon. Et j'adore la manière dont ça commence là. Et ce son de piano.
Alors Gabriel Lévy, comme son nom l'indique, est d'origine juive, et donc je pense que, comme beaucoup de gens de cette communauté, les aïeux de Gabriel ont eu la bonne idée de partir à temps du continent européen. Donc il a une forte connaissance de la musique d'Europe centrale d'ailleurs. Il travaille vraiment, je crois que c'est une des personnes les plus compétentes sur les rythmiques des Balkans et vraiment des musiques qu'on va trouver en Bulgarie, Roumanie, etc. Et donc la Modinia, je crois que c'est une danse qui est liée à des rituels. Et sauf que lui, là, comme tout ce que fait Gabriel, il se le réapproprie et le recolorie. Il prend le modèle, mais il va changer une bonne partie des formes et des couleurs, etc. pour jouer ce morceau. Mais je suis complètement d'accord. C'est un morceau, quand je l'ai entendu la première fois, j'ai fait waouh, 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 waouh. Il dégage une émotion, une profondeur. Et c'est toujours un plaisir de jouer ce morceau. J'adore ce morceau de Gabriel.
Thank you.
y a deux flûtistes dans ce sextet, c'est bien d'un sextet dont on parle, deux flûtistes, vous, et puis...
Toninho Carrasquera. Alors Toninho Carrasquera, qui n'est plus en fait malheureusement aujourd'hui dans Kerlaveo, parce qu'il est également professeur à l'USPI, donc l'université de São Paulo, c'est un des plus grands flûtistes du Brésil. C'est assez drôle parce que quelqu'un m'avait dit un jour, c'est tellement grand ce pays, je dis, moi je connais que deux flûtistes, tu connais Carlos Malta et Toninho Carrasquera. Il me dit, mais tu connais les deux plus grands. C'est-à-dire Carlos Malta, c'est le plus grand dans le jazz, Toninho Carrasquera, c'est un personnage magnifique qui, pendant très longtemps, a hésité entre la carrière de footballeur et la carrière de flûtiste. Voilà, c'est le Brésil, ça. Et donc, il a décidé d'être flûtiste classique. Donc, lui, il vient vraiment de la musique classique brésilienne. Et quand on est flûtiste et qu'on fait de la musique classique au Brésil dans les années 70, il faut absolument aller voir l'école française de la flûte. Donc, il est arrivé à Versailles pour étudier. Donc, toute la tradition de Jean-Pierre Rampal. Il est devenu ami avec Lord James Galway, très vite, ils sont très très bons amis. Donc c'est un grand grand musicien classique, qui a joué dans le quintet Villa-Lobos très très longtemps, et il joue toujours avec le quintet Villa-Lobos, je pense. Surtout, c'est un très grand lecteur, il est connu pour ça, il a un son de flûte magnifique, et quand on l'invite en studio, surtout au Brésil, pays capitaliste, etc., donc Chico Buarque veut une flûte sur un morceau, Toninho arrive, on fait 1, 2, 3, 4, on lui met la partition sous le nez, on fait le record, tac, et puis quand on fait stop, c'est bon. En une prise, il a lu exactement l'arrangement du chef d'orchestre, et donc il est très connu pour ça. Donc il dit, moi j'ai aucun mérite, tout le monde pense parce qu'il a joué sur des grands grands disques de la musique brésilienne, il est sur tous les... sur tous les 10 des grands chanteurs brésiliens, parce qu'il est extrêmement efficace dans ses... Et puis, bon, il interprète d'une manière magistrale, quoi. Et donc, Toninho, moi, je l'ai rencontré en 2009, la première fois que je suis allé à São Paulo, vraiment, et je suis intervenu dans sa classe de flûte, à l'USPI. Et ça a été une rencontre magnifique. C'est un homme qui est absolument extraordinaire, avec qui j'en ai échangé beaucoup, beaucoup de choses. Je suis très triste qu'il ait quitté le groupe Kerlaveo, parce qu'il, voilà... sous Bolsonaro, la fac est très menacée. Il démarrait un projet dans les quartiers populaires, un projet social très fort, et ça lui demande beaucoup de temps. Et voilà, il pouvait pas consacrer tout le temps qu'il voulait à Kerlaveo. Donc il a. Mais j'espère qu'on va le revoir, parce que c'est un grand, grand, grand monsieur.
Jean-Luc Thomas, avec qui on est pour Alternante FM et puis Radio Campus Bordeaux, on est toujours en train de parler de cet album, là, l'album du sextet Kerlaveo. Il y a une composition à vous dans ce disque. Et alors ça, c'est tout à fait vous, parce que donc vous jouez avec des musiciens d'Amérique latine, une musique qui est quand même très empreinte de ces ambiances, parce qu'il y a tous ces instruments que les musiciens d'Amérique latine jouent, les musiciens du Brésil jouent, et vous offrez un pline, mais un pline qui vient de Bamako.
Bah... Je reprends la métaphore un peu du plat qu'on prépare ensemble. Voilà. Donc, quelqu'un amène des pommes de terre, quelqu'un amène des oignons, quelqu'un amène un peu d'épices, etc. Donc, qu'est-ce que moi j'amène dans ce plat commun? Donc, forcément, il faut que j'amène des choses que les autres n'amèneront pas. Donc, et il y a cette connexion quand même avec Vitor. Vitor, il est venu ici, il adore le fest-noz. Le premier fest-noz où j'ai envoyé Vitor, il dansait tout le dédance, quoi. Et il impressionnait tout le monde, parce qu'il compte. Évidemment, brésilien qui s'est lancé, il apprenait tout en... deux secondes, et je me souviens d'une soirée qu'on avait passée ensemble en Bretagne, et il avait beaucoup aimé le pline, donc je me suis dit, tiens, je vais proposer un pline, parce que Vitor au moins va pouvoir expliquer aussi à distance aux collègues de Kerlaveo ce qu'est un pline. Et puis Bamako, c'est parce qu'en fait j'avais composé sur un mode pentatonique, qui est vraiment le mode qu'on va trouver en Afrique de l'Ouest, et je crois que j'avais composé ce morceau-là à une époque où je devais jouer en fest-noz avec Yvon Riou, qui lui-même connaissait un petit peu le Mali, était allé à Bamako, était allé à Ségou, à Nintabougoro, comme moi. Ce pline de Bamako, il était venu parce qu'il y avait une rêverie autour du muezzin, autour de senteur de Bamako. Par contre, ça restait un pline, vraiment. Et puis, je me suis dit, je vais amener ça vraiment à... Parce qu'il y a le côté percussif, parce qu'en plus, voilà, évidemment, je pense qu'inconsciemment, il y avait aussi ce rapport à l'africanité. Les Brésiliens sont passionnés par leurs racines africaines, et je suis peut-être celui qui est allé le plus près de leur propre racine par cette connexion que j'ai eu la chance d'avoir avec, notamment avec le Yacoub Amouni et Boubacar Souleyman. J'amène la Bretagne, j'amène une partie de cette vieille Europe, très vieille pour ces Brésiliens, d'un nouveau monde, mais j'amène aussi ce côté africain.
Jean-Luc Thomas, au micro de Didier Houd pour Alternante FM 98.1 à Saint-Herblain et Nantes, 91 à Cambon, Saint-Nazaire et Trignac. On se quitte avec ce Bamako Spleen qui figure sur l'album Kerlaveo, enregistré par Jean-Luc Thomas et ses camarades brésiliens. Continuez à écouter toutes les radios libres et associatives. Continuez également à écouter les podcasts d'Alternante FM, Kenavo.